RCF. Éric de Luca, bonjour et bienvenue ici à Paris, dans cette ville que vous connaissez bien, où vous venez régulièrement présenter vos nouveaux livres publiés en français. Car en effet, depuis une vingtaine d'années, et notamment depuis l'obtention du prix Femina en 2002 pour votre livre Monte Didio, vous êtes devenu l'un des auteurs italiens les plus lus en France. Mais votre vie personnelle, Éric de Luca, est aussi passionnante que vos romans. Votre vie irrigue d'ailleurs considérablement vos écrits. Vous êtes napolitain, vous vous êtes longuement engagé dans les années 60-70 dans un parti d'extrême gauche italien, Lotta Continua. Vous avez été ouvrier pendant 20 ans, tout en lisant la Bible en hébreu tous les matins. Vous êtes également passionné pour la montagne, vous êtes un excellent escaladeur. Et vous êtes un écrivain aux mots précis, ciselés, affûtés, comme vous l'êtes d'ailleurs physiquement. Alors, je suis vraiment heureux de passer cette heure avec vous pour faire davantage connaissance. Vous avez écrit « Je suis d'un siècle et d'une mère mineure, une mère MER. Je suis né en leur milieu, à Naples, en 1950. » Qu'est-ce que cette date de l'après-guerre et cette ville, Naples, au bord de la Méditerranée, dit de vous encore aujourd'hui ?
Beaucoup pour moi. Ça veut dire beaucoup pour moi. D'abord, Napoli. Napoli, c'est ma ville natale. Et là où je suis grandi jusqu'à 18 ans. Et c'est une ville qui m'a donné ma langue maternelle, qui est le napolitain, et m'a offert son éducation sentimentale, qui c'est que celle que regarde la formation des sentiments de la compassion, de la colère et de la honte.
C'est donc, ça votre éducation sentimentale?
Oui.
La colère,
la compassion et la honte. Voilà. Là sont nés mes sentiments fondamentaux, mm-hmm. qui ont formé une idée de justice pour moi.
Avant l'engagement politique.
Avant l'engagement politique.
On en parlera dans un instant.
Oui.
C'est la ville qui vous a enseigné.
C'est la
ça.
Ville, ce sont les récits de la ville, c'est la voix des femmes napolitaines qui parlaient de la guerre et des bombardements. C'est là que s'est formée mon éducation, et acoustique d'abord, et sentimentale après.
Et 1950, c'est vraiment l'après-guerre. Vous avez grandi dans l'après-guerre.
Dans l'après-guerre, dans les destructions des bombardements, parce que Naples a été la ville plus bombardée d'Italie pendant la guerre. C'était un port, c'était un objectif militaire, évidemment. Mais c'était aussi un objectif civil, parce qu'il y avait une grande concentration de vie humaine là. Et donc les bombardements ne gaspillaient aucune explosion. Toute explosion avait la cible de détruire des vies prises comme ça là. À l'imprévist, à l'imprévu, chez eux, pendant le jour, la nuit. Et après, je suis né dans ce siècle énorme, un siècle des grandes migrations, le siècle des guerres modernes. Et les guerres modernes ont cette spécialité face à toutes les guerres du passé, parce qu'ils détruisent majeurement les vies des personnes sans armes. Pas les vies des soldats et des combattants, mais de ceux qui sont pris loin des champs de bataille.
Les innocents, souvent.
Les civils. Et qui ont été la cible principale des bombardements et de la guerre moderne. Depuis le bombardement de Guernica, non ? Mm-hmm. Où cette aviation allemande, la division Condor de la Luftwaffe, bombardait une petite ville basque qui n'avait aucune importance stratégique et qui était en plein jour et dans les heures de marché pour tuer le nombre majeur de personnes.
Et que Picasso a si merveilleusement représenté.
Eh oui, nous connaissons un de ces massacres, un des nombreux massacres, parce qu'il y a ce fameux tableau de Picasso.
Éric de Luca, vous êtes toujours habité par Naples, parce que vous n'y habitez plus, hein, vous habitez près de Rome maintenant. Vous n'avez pas fait le choix d'y retourner et d'y vivre. Ça m'a intrigué, pourquoi ?
Non, j'ai quitté la ville à 18 ans. Et après, j'ai terminé mon appartenance à cette ville.
Mais pourtant, vous dites qu'elle habite tous vos livres, elle habite votre vie.
Parce qu'elle a eu un transfert de moi. Elle s'est transférée de moi. Et toutes les fois que j'ai une histoire qui se produit là, Naples se réforme dans les pages. je la reconstruis, je la réhabite, mais je la réhabite par écrit et par souvenir à travers le mécanisme merveilleux qui est écrire une histoire.
Mais vous n'avez jamais eu envie d'y retourner et de vous y installer de nouveau. Pourquoi
ça ? Non, dès que j'habite depuis dizaines d'années dans la campagne, j'ai pris l'habitude de n'avoir personne. En haut, en bas, à côté, donc je ne pourrais même pas aller habiter dans un village.
Vous vivez près de Rome, à la campagne, dans une bergerie, au calme, loin de tout.
Loin. Loin, mais pas dans l'isolement total. Je prends la voiture, je fais mes courses.
Votre langue maternelle, Eri De Luca, c'est le napolitain ou c'est l'italien ?
C'est le napolitain.
D'abord.
Parce que c'était la langue qu'on parlait dans la ville, qu'on parlait avec ma mère. Et l'italien, c'était la langue qui parlait avec mon père. Mon père, lui aussi napolitain, mais voulait nous apprendre l'italien et sans accent, sans cadence méridionale, un italien neutre.
Mais qu'est-ce que ça signifiait pour lui de vous parler en italien, de vous enseigner l'italien plutôt que le napolitain ? C'était un marqueur social, quelque part ?
C'était à nous apprendre la langue qu'il fallait apprendre, correctement. Et j'aimais l'italien pour ça, parce que c'était une langue calme, qui n'était pas pressée comme la langue napolitaine, qui était toute une langue de coupure, qui allait vite, vite pour s'exprimer. Et c'était une langue qui ne hurlait pas, l'italien, c'était une langue de la table. Et en plus, c'était une langue complètement muette dans les livres de mon père. Donc je pouvais lire l'italien. Et je lisais les livres de mon père. Mon père était un lecteur passionné. Je lisais sa bibliothèque. Et donc la bibliothèque était en italien. Et là, l'italien, c'était une langue muette. C'était encore plus belle pour ça.
C'est vrai que votre chambre était remplie de livres de votre père, votre chambre d'enfant ?
Oui, parce que ce n'est pas ma chambre d'enfant. C'était la chambre des livres de mon père.
Mais vous dormiez là ?
Oui, je dormais en bas. C'était une petite chambre, je dormais en bas.
Donc vous avez vécu entouré de livres
dans
votre enfance ?
Si, c'était le matériel autour des parois. C'était un matériel isolant. Et j'ai pu le savoir avant de commencer à ouvrir ce matériel, à lire dans les pages. Après, j'ai compris que c'était un vrai matériel isolant, la littérature.
Et ça ne vous a pas étouffé, tous ces livres autour de vous ? Ça a éveillé votre curiosité ?
M'ont donné une protection acoustique et aussi une protection thermique, parce que Napoli, dans les hivers, était froide et il n'y avait pas de réchauffement. Donc c'était la petite chambre la plus chaude de la maison.
D'accord, ça c'est l'aspect physique.
C'est l'aspect physique de la protection.
Mais d'un point de vue intellectuel.
D'un point de vue intellectuel, me donnait une clé pour ouvrir le monde des adultes. Je pouvais connaître les adultes, ces géants qui connaissaient tout, qui avaient l'expérience, etc., à travers les livres, donc à travers leurs faiblesses, leurs inconsistances.
Vous pouviez
fragilité.
Connaître, découvrir leurs faiblesses à travers les livres.
Oui, parce que les livres étaient les livres des romanciers, donc c'était les livres qui parlaient de l'expérience des adultes, leurs pensées, leurs comportements. Et la chose la plus incompréhensible dans ces romans de l'époque, pour mon enfant, était la parole amour. Le sentiment amour, je ne le comprenais pas. Et je ne voulais pas le chercher dans le vocabulaire, qu'est-ce que ça veut dire. Mais à Naples, il y avait l'équivalent de l'amour, c'était amour, avec des M. Et c'était souvent un sentiment très violent. On s'entretouait. Pour l'amour, ça je ne comprenais pas. Je ne pouvais pas comprendre à l'époque.
Alors qu'en italien, c'était plus doux ?
Amore, c'est plus délicat. Mais en napolitain, non. L'équivalent en napolitain, c'était aussi, il y a des mots napolitains comme la femme, qu'on appelle la femme, avec des M comme la... En italien, c'est la femme. En napolitain, la femme. Que ce n'est pas la femme en français, c'est la femme acharnée.
Quando la notte non te vedi, non te senti in tasti bracci, non te vase che sta faccia, non te stregne forte in braccia a me. Ma c'è danno, ma sto suono. fai chiagnere per te.
Hey de Luca, parmi vos livres, il y en a un qui m'a vraiment bouleversé ces derniers temps, qui vient d'être publié chez Folio en livre de poche, c'est Le Tour de l'Oie, où là, vous écrivez au fils que vous n'avez jamais eu. Vous êtes le père et vous écrivez à ce fils que vous n'avez jamais eu. Mais à travers ce livre, vous parlez beaucoup de votre père. On sent sa présence. Et moi, j'aimerais que vous me parliez un peu de votre père, parce que j'ai l'impression que non seulement il vous a entouré de livres, mais il vous a transmis beaucoup de choses. La montagne, les livres, l'italien. Donc j'aimerais que vous me parliez un peu de ce qu'il vous a apporté d'essentiel, ce père.
Mais vous avez résumé. Très bien. Les livres, d'abord, l'italien et la montagne.
Les trois choses essentielles.
Donc, c'est déjà beaucoup. Il ne savait pas qu'il me transmettait toutes ces choses. Il voulait me transmettre une éducation civile, il voulait s'imaginer de moi que j'aurais fait une carrière dans l'État, je voulais que, dans la carrière diplomatique, il essayait de m'apprendre hors de l'école des langues comme l'anglais et le français.
Il voulait que vous soyez ambassadeur.
Ambassadeur comme ça, si. Mm-hmm. Il avait cette aspiration de moi, et que j'ai renié. À 16 ans, quand je me suis inscrit au Parti communiste. Je me suis inscrit au Parti communiste parce que qui était inscrit au Parti communiste ne pouvait pas avoir accès à l'État.
Et ça, c'était quoi? En opposition contre votre père?
C'était la manifestation d'une opposition qui était déjà dans moi et qui est arrivée à 18 ans, elle a quitté sa maison et lui, là, c'est... Ils m'ont dit que le moment où je suis parti de la maison, comme ça, sans bagage, sans rien...
À 18 ans.
À 18 ans, oui. Il m'a dit qu'il c'était, il avait pleuré, il s'était déchiré la chemise.
Très biblique, ça. On voit ça dans la Bible. Les prêtres qui déchirent leur chemise.
Et là, si, ça a commencé, c'est un signe de deuil. Comme si j'étais mort. Et ce bruit de la chemise déchirée, c'est un bruit que je n'ai pas connu, qui m'a été transmis et que je continue à l'écouter, ce bruit.
Il vous habite, ce bruit?
Oui, c'est le bruit qui me fait toujours revenir sur des histoires père-fils.
Mais je me suis demandé, Ri de Luca, si vous n'écriviez pas particulièrement pour votre père.
Et j'ai l'impression d'écrire pour quelqu'un qui n'est pas là. Pour mon père, pour ma mère, pour leur dire des histoires qu'ils ne peuvent plus lire, et plus savoir. Donc le moment où, quand j'écris, je sais que je suis en train de raconter à eux l'histoire que j'écris.
Et dans quel but vous faites ça?
J'écris pour me tenir compagnie. Et parce qu'il y a quelquefois un souvenir de quelque chose qui me frappe si fort que je vais le faire durer encore un peu. Et la seule manière pour faire durer un peu un souvenir, c'est de l'écrire. Et comme ça, j'ai commencé à écrire. Mais le souvenir, c'est beau parce que d'abord, il faut avoir oublié. Et alors, le souvenir a ce sursaut de surprise, d'émotion, qui me fait revivre à travers un petit morceau toute une période des personnes que j'évoque quand j'écris une histoire.
Mais je crois que vous avez commencé à écrire très jeune. Mais par contre, vous n'avez publié que très tard.
Oui, mais je me suis accompagné avec l'écriture de mon premier récit, c'était un récit sur un poisson que j'écris à 11 ans.
Mais, comme je le disais, oui. Vous n'avez envoyé votre manuscrit à un éditeur, je crois que lorsque votre père était très malade.
Non, c'est, j'avais pas envoyé des manuscrits aux éditeurs, parce que dès que ces histoires sont des histoires à moi, des histoires personnelles, je pensais qu'elles ne pouvaient pas intéresser un éditeur, donc je l'avais pas envoyé. Mais une amie à moi avait lu ce manuscrit, et l'avait photocopié, elle travaillait déjà, elle venait d'être embauchée chez Feltrinelli, un éditeur italien. Mm-hmm. Avait fait lire le livre, le récit à la maison.
Le premier récit, c'était
Non ora, non qui, ni ici, ni maintenant. Mm-hmm. Et donc, je me suis trouvé comme avec un petit contrat pour publier ce premier livre. Mm-hmm. J'ai accepté, naturellement. À l'époque, je faisais l'ouvrier, j'ai continué à le faire. Et quand j'ai eu le livre, mon premier livre publié, je l'ai offert à mon père. Et le geste qu'il a fait, dès qu'il était presque aveugle, il l'a ouvert et il a mis le nez dedans.
Pour sentir l'odeur du livre.
Pour sentir l'odeur du livre. Mmh. Et aussi pour sentir une odeur différente du futur de son fils, de l'avenir de son fils.
Parce que son fils était ouvrier, on va le voir.
D'abord
depuis
révolutionnaire,
longtemps.
Révolutionnaire, après ouvrier. Puis ouvrier. Donc, il avait perdu le fils.
Et c'était quoi, Éric de Lucas? C'était une forme de réconciliation avec votre père en lui offrant ce livre?
Là, on ne pouvait pas faire que le passé ne soit pas. Non, révoquer le passé. Mm-hmm. Mais ce que j'ai pu faire avec lui, comme avec ma mère, est de soigner leur temps final. Ils sont morts chez moi. Et ça a été ma manière de récompenser leur cadeau.
Leur cadeau
de la vie et des années que je suis grandi avec eux.
Visage, RCF.
Éric de Lucas, à 16 ans, vous lisez Hommage à la Catalogne de George Orwell et vous décidez à ce moment-là de devenir anarchiste ou communiste, je ne sais pas, en lisant ce livre.
Le livre d'abord, c'était un livre de la bibliothèque de mon père, c'est pas moi que je l'avais choisi. Mais il était, si vous voulez se renseigner sur son époque, parce qu'il avait été un simple témoin. Et le témoin, ce n'est pas un spectateur qui regarde un spectacle. C'est quelqu'un qui se trouve dans un grand tourbillon, dans une grande bagarre, et essaie de se protéger, de se défendre. Donc, normalement, le témoin ne comprend rien et n'est pas capable de témoigner.
Votre père avait un métier simple, hein, je crois.
Oui, un métier simple. Il était un agent de commerce. Et donc, j'ai lu ce livre qu'il m'a recommandé, parce que c'était un livre sur la guerre civile espagnole. Un de ses remords a été aussi de l'avoir vu de loin. Il était un jeune homme à l'époque, un garçon à l'époque. Et là, j'ai reconnu des sentiments qui étaient déjà dans moi.
Donc, lesquels?
Des sentiments d'indépendance et d'esprit d'anarchie. Et après,
De révolte contre l'injustice.
Oui. En étudiant l'histoire de l'anarchie, je me suis reconnu comme quelqu'un qui, à l'époque, aurait pu être participer de cette communauté qui n'existait plus. Et donc, c'était des sentiments de connaissance physique de l'histoire, participation physique à l'histoire. Et là, il y a des livres qui ne servent pas pour connaître, mais pour reconnaître quelque chose qui est dans la personne et qui attendait une formule extérieure pour être révélée.
Et ça, vous l'avez trouvé dans ce livre?
Oui.
Non, le jeune garçon de 16 ans a trouvé ça
dans
ce livre.
Parce que Orwell n'était pas un historien. Il était quelqu'un du côté anarchiste. Donc, ce que j'aime, ce n'est pas la neutralité. La neutralité presque impossible de l'historien. Mais j'aime sa participation aux événements.
Éric de Lucas, il nous faudrait des heures, des jours pour refaire tout votre parcours et notamment votre engagement politique. Mais j'aimerais quand même essayer de comprendre ce qui a fait de vous l'homme engagé dans un parti d'extrême gauche dans les années 69. Hein, je crois pendant 12 ans, vous avez été très engagé dans un mouvement qu'on appelle Lotta Continua.
Oui, c'est un mouvement public, non clandestin. Mm-hmm.
Quelle était votre, je ne sais pas comment le formuler, quelle était votre espérance en vous engageant dans ce mouvement?
D'abord, ce n'était pas un mouvement que j'avais suscité. Je me le suis trouvé en face de moi. Il était dans les rues, dans les écoles, dans les usines. Mm-hmm. Et donc, j'ai adhéré. Quelle était l'autre possibilité? La déserter. Et je n'ai jamais eu cette alternative. Je n'ai pas pu déserter les engagements qui étaient devant moi.
Mais il y avait beaucoup d'autres partis en Italie à ce moment-là.
Mais la jeunesse était dans les rues. Elle était comme ça. La jeunesse était cette jeunesse à laquelle j'ai adhéré et que j'étais...
Révolutionnaire.
Et qu'est-ce qu'on faisait comme révolutionnaire, par exemple? À Rome, à l'époque, il y avait, c'était plein de baraques, des gens qui habitaient, qui venaient des autres pauvres régions italiennes et s'installaient dans les alentours, dans la périphérie, et on construisait des baraques. Et à côté de ces baraques, des grands constructeurs montaient des grands immeubles qui restaient vides. Parce qu'il avait l'intérêt à les laisser vides, parce que le prix des immeubles montait. Et donc il y avait cette situation d'immeubles vides et de gens à baraques en bas. Et c'était, nous, qu'est-ce qu'il fallait faire? Rééquilibrer la disparité. On faisait organiser des grandes occupations de ces immeubles, avec des gens qui formaient une communauté d'occupation. Après, venait la police, ils débarrassaient tout, parfois avec des résistances de notre part, et après, on réoccupait à nouveau, et on débarrassait, on réoccupait, et c'était comme ça. C'est passé comme ça jusqu'à la fin, jusqu'au moment où l'autorité était comme forcée à régulariser cette position, à faire des contrats, et à régulariser la...
Mais il y avait aussi beaucoup de grèves organisées dans les usines. C'était une de vos actions.
Mais pour dire, c'était une question de simple application de la Constitution. Mm-hmm. Nous étions des révolutionnaires comme format de méthode, comme méthode, parce que la méthode était nécessairement passée à travers ce choc.
Mais cette époque vous habite encore beaucoup. Dans votre dernier livre, Impossible, on le voit, cette réflexion sur... cette période révolutionnaire, puisque votre héros a participé à cette période révolutionnaire. On l'accuse d'avoir tué quelqu'un qui a trahi dans cette période-là, donc dans votre roman Impossible. Donc on sent que cette période révolutionnaire vous habite encore. Il y a Naples, certes, la ville, mais il y a ces 12 années où vous avez été engagé dans ce mouvement. Moi, je me suis demandé pourquoi, vous, Eri De Luca, vous n'avez pas fait le choix de passer dans la clandestinité, parce qu'il y a eu des gens qui sont rentrés dans la clandestinité, y compris dans la lutte armée.
Oui, oui.
Vous, pourquoi vous n'avez pas fait ça?
Beaucoup de mes camarades de Lotta Continua, après la dissolution de Lotta Continua, ont fait ce choix. Mais moi, non.
Pourquoi?
Par une objection mineure, je peux dire. J'étais un militant public, à l'air ouverte. J'étais dans les rues, dans les usines, dans les écoles, dans les lieux de rencontres, dans les assemblées. Et donc, j'étais physiquement contraire à par une question de claustrophobie politique, de me renfermer dans un endroit clandestin, secret.
Vous ne pouviez pas vous cacher.
Organiser, pratiquer la politique sous forme de combat armé. Pour moi, le combat était un combat qui se manifestait avec la parole publique dans les rues. Donc, je ne pouvais pas faire cette démarche. C'était impossible pour moi.
Et ce n'est pas parce que vous ne pouviez pas accepter le fait que des hommes prennent des armes et tuent d'autres personnes, puisqu'il y a eu des assassinats aussi.
Il y a eu des assassinats, aussi
des magistrats, aussi de
nous-mêmes, contre nous. Mm-hmm. Nous étions sous cible. Donc il y avait une violence qui existait dans la vie politique d'ailleurs. Un membre de la commission parlementaire, le président de la commission parlementaire sur ces affaires-là, avait dit qu'en Italie il y avait eu une petite guerre civile, à basse intensité. C'était comme ça. Il y avait cette violence autour. Même faire une manifestation non autorisée, c'était une forme de violence, parce que, mais c'était une violence pour nous indispensable, parce que le droit de manifester ne pouvait pas être à la discrétion d'une autorité de police. C'était notre droit constitutionnel de manifester. Et donc on faisait des manifestations non autorisées. Et comment on pouvait faire des manifestations non autorisées? En les défendant. En les défendant avec une force de résistance en place, sur place.
Et Éric de Luca, il y a un mot qui revient beaucoup, on sent une thématique dans votre roman Impossible, c'est autour de la loyauté.
Oui.
Pour vous, qu'est-ce que c'est qu'être loyal quand on a été, comme vous, engagé fortement en politique et après quand on a refusé de s'engager dans une voie armée?
Donc c'est, il fait une différence pour moi que de vocabulaire entre fidélité et loyauté. La fidélité pour moi regarde les personnes. On est fidèle à des personnes, à une communauté, on peut être fidèle à une communauté. Quand la communauté va en dissolution, il n'y a plus cette fidélité. On peut être fidèle à une femme, à un ami, comme ça. Et la loyauté regarde les raisons. Les raisons qui ont fait faire des choix décisifs dans la vie. Les raisons d'adhérer à cette jeunesse révolutionnaire. Donc ces raisons, je reste loyal aux raisons de ces choix collectifs et de mon choix d'adhérer à cette génération insurgée.
Encore aujourd'hui?
Encore aujourd'hui, je suis loyal pour les raisons qui nous ont poussés à faire ça, à s'engager si intensément pendant des années et des années.
Mais vous avez su dire non à un moment. C'est-à-dire que vous n'avez pas passé le pas de prendre les armes.
Oui, parce que le moment où il y a eu la dissolution de l'ordre continu, j'ai commencé à faire des métiers d'ouvrier. Mmh. J'ai commencé à faire l'ouvrier. Ça, c'était mon choix.
Cambia lassù, c'è un buco nello stato dove i soldi van giù. Svalutation, svalutation. Io amore mio non capisco perché, cerco per le ferie un posto al mare, non c'è. Svalutation, svalutation.
Alors justement, Éric de Luca, pendant 20 ans, votre père rêvait que vous deveniez ambassadeur et vous êtes devenu ouvrier.
Pauvre.
Et puis vraiment des métiers durs, hein, des métiers physiques, chez Fiat, sur des chantiers de construction. Pendant 20 ans, vous avez usé vos mains, votre dos, votre physique, dans des métiers très très rudes. Pourquoi vous avez fait ce choix d'être ouvrier, itinérant en plus?
D'abord parce que je n'avais pas des alternatives. J'avais quitté l'école à 18 ans, j'avais fait le révolutionnaire beaucoup d'années, donc je me trouvais à la fin de mes 20 ans que je ne savais rien faire.
Ouais, j'avais pas un métier. Vous êtes intelligent, vous avez la culture générale, vous avez appris facilement plusieurs langues. Vous auriez pu faire autre chose qu'ouvrier, vous ne l'avez pas fait que parce que vous ne pouviez pas faire autre chose. Si.
Pour le moment, au moment où j'ai commencé à faire l'ouvrier, je l'ai fait parce que je n'avais aucune autre possibilité et parce que c'était mon milieu, c'est les personnes que je connaissais, c'était mon ambiance. Il y avait encore des luttes à faire dans les usines, donc pour moi c'était naturel. Après, ce début, que c'était une espèce de choix. À faire un métier pour 20 ans, pour ce métier pour 20 ans, n'est pas une question de choix. C'est une question de nécessité. Non, je pouvais le faire pour une période et laisser tomber.
Oui.
Mais après, le temps passait et je pouvais faire que ça.
C'était vraiment par nécessité que vous l'avez fait. C'était pas nécessité. Dans l'esprit de mieux connaître le cœur du milieu ouvrier, comme l'a fait Simone Veil, par exemple.
Simone Veil l'a fait pour quelques mois. Quelques mois.
Oui.
Bon,
et
ça,
vous, 20 ans, oui.
Eh oui, donc je dis, on le fait pour nécessité. Je n'ai connu aucun de mes camarades ouvriers qui l'a fait pour choix, ni qui voulait transmettre ce métier au fils. Donc c'est un métier duquel m'a tiré l'écriture. L'écriture m'a offert c'est une voie de sortie de ce métier.
Sinon, vous seriez resté ouvrier jusqu'à votre retraite. Quoi.
Et la retraite ou sous accident, parce qu'il y a beaucoup d'accidents là, dans la vie ouvrière. On parle de courage pour quelqu'un qui va en montagne, mais le courage, c'est d'affronter pour 8 heures au jour, au moins 8 heures au jour, des dangers physiques qui peuvent produire des blessures définitives, une mortalité sur le travail. Et ça, ce ne sont pas des accidents.
Qu'est-ce que vous avez appris, Eric De Luca, de cette vie rude ? Qu'est-ce que vous avez appris d'essentiel durant ces 20 années d'ouvrier ?
La discipline. La discipline physique, la discipline des horaires, qui me reste encore collée. Je me lève encore très tôt le matin. Je mange très peu à midi parce qu'il y avait l'autre moitié du jour à travailler. Et je me couche très tôt le soir. Une discipline physique.
Qui vous a servi aussi, on va en parler, en montagne et dans l'escalade ?
En montagne, je fais de l'activité physique libre, je prends des risques volontaires et par contre, j'ai pris mes risques obligatoires pendant toute ma vie ouvrière. Ça, c'est une grande différence.
Vous insistez beaucoup sur cette dimension de danger du travail, du milieu ouvrier, oui. Parce que vous avez eu des confrères, des collègues qui sont morts, se sont blessés.
Bien sûr, et ça, je regrette la vie de ces camarades qui sont morts comme ça. Par contre, je ne regrette pas la vie de certains camarades alpinistes qui, par contre, ont choisi leur terrain de risque, leur heureux terrain de risque. L'air bonheur en recherché dans la montagne. Donc, c'est une grande différence pour moi. Il y a une grande différence du mot courage. Le courage est celui des ouvriers que j'ai connus.
Plus que des alpinistes, et pourtant vous en avez connu.
Oui, oui. Les alpinistes, leur courage, c'est un courage sur quelque chose qu'ils connaissent et qu'ils contrôlent. Donc, c'est l'accident, là. Mais sur le travail, ce n'est pas accident. C'est la condition de la vie, de l'usure, de la fatigue qui produit les blessures et les morts.
Eric De Luca, c'est pendant cette période où vous étiez ouvrier que vous avez découvert la Bible, l'hébreu, la lecture de la Bible régulièrement ?
Oui.
Vous étiez encore ouvrier quand vous êtes mis à étudier.
Si.
Comment est rentrée la Bible et l'étude de l'hébreu dans votre vie ?
Et donc, c'était toujours par hasard. Je me suis trouvé dans un endroit où il n'y avait que ce livre, la Bible. J'ai commencé à la lire et j'ai eu l'intention de savoir en quelle langue avait été transmise pour la première fois. La première rédaction, la première version de cette langue, c'était l'ancien hébreu. Et alors j'ai cherché une première grammaire d'ancien hébreu pour curiosité.
Mais attendez, l'ancien révolutionnaire d'extrême gauche n'a pas considéré la Bible comme l'opium du peuple, comme un ouvrage à rejeter ?
Non.
Pourquoi ça ?
Non, non. C'était quand j'ai lu les premières lignes et j'ai trouvé que la divinité dit. Le verbe « dire » est le verbe plus associé au sujet de la divinité pendant l'Ancien Testament. Donc c'est sa manifestation physique.
Dans la Genèse, « et Dieu dit que la lumière soit », et Dieu dit...
Et pourquoi il doit dire que la lumière soit ? Parce que sans ces mots, il n'y a pas de lumière. Ça veut dire que ces mots font advenir la lumière. Tous les 6 jours de la création sont précédés par « et il dit de la divinité ». Et son dire fait advenir la création. Donc là, il y a un sommet de cet outil de la parole, qui n'est pas simplement ce que nous échangeons entre nous, que c'est une conversation, une communication. Là, il y a un effet de la parole qui devient créatrice, directement créatrice et responsable pour ça, de ce qu'il a dit et de ce qu'il a prononcé.
Et excusez-moi, Eric De Luca, ce n'est pas du même ordre que ce que vous faites, vous, en tant qu'écrivain, parce que là, j'ai entre les mains l'un de vos livres. Vous avez non seulement dit, mais écrit, et vous faites advenir une histoire. Qui m'a rejoint. C'est pas du même ordre. C'est pas. On dit la création. En français, on dit la création artistique. Vous êtes un créateur, vous aussi.
Je dis que là, dans cette histoire de la création, biblique, là est le sommet de la parole. Là est le sommet de la parole. Ce que nous faisons avec la parole, avec les histoires, on peut la régler sur la distance de ce sommet.
Hiérarchiser
la distance. Mais le sommet est cette action créatrice de la divinité. C'est la seule divinité qui se met à dire. Et c'est pour ça qu'elle a gagné la bataille sur le polythéisme. Elle a extirpé le polythéisme à travers les mots.
Mais j'aimerais, Éric Luca, comprendre votre rapport à la Bible. Parce que ça fait des années maintenant que tous les matins, je ne sais pas, vous vous levez vers quelle heure ?
Oui, je me lève très tôt.
Très tôt, vers 5h. Vous êtes là, vous continuez toujours une demi-heure, une heure de lecture en hébreu ?
Oui, en hébreu.
De la Bible, et puis vous êtes passé aussi au Nouveau Testament.
Oui, mais avec un décalage, parce que le Nouveau Testament n'a pas gardé l'original, non ? Le araméen de Jésus n'est pas dans les évangiles.
Non, on n'a que le grec.
Donc il y a une traduction, une traduction. Et toujours dans les évangiles, je cherche de récupérer l'araméen de Jésus. Parmi les lignes, dans le vide, entre une ligne et l'autre, je cherche d'arracher quelques mots araméens de Jésus.
Alors qu'est-ce que vous cherchez, vous, en scrutant la Bible comme ça, en scrutant les évangiles?
Ce n'est pas une recherche. J'ai commencé à faire ce exercice de lecture et d'études. Mais quand j'étais ouvrier, la journée m'a arraché toute ma force et toute mon énergie. Donc j'arrivais le soir que j'étais complètement épuisé. Alors qu'est-ce que j'avais imaginé de faire ? De me lever une heure avant pour faire mes lectures. Comme ça, j'avais gardé quelque chose pour moi.
Vous souviez quelque part.
Exactement. J'ai souvi un morceau. Oui. Un morceau de la journée.
En vous levant plus tôt. Alors que les gens s'imagineraient, en ayant travaillé toute la journée, on est épuisé, on va dormir plus. Hey, vous, c'est le contraire.
Non, c'est le contraire. Mais ça, ça a été une surprise, une découverte. Parce que cette lecture, cette heure première, m'a fait être heureux de me lever tôt tous les jours de ma vie ouvrière. Mais ça, c'était un avantage énorme sur le reste de mes camarades ouvriers. Être heureux de se lever très tôt.
Pour étudier
pour
en
avoir
hébreu
quelque chose.
La Bible.
Vous savez, il y a un vers du prophète Amos qui dit « Comme arrache de la bouche du lion le berger et arrache une boue des pattes ou un bout d'oreille, comme ça seront sauvés les fils d'Israël, non ?» Mais pourquoi un berger doit s'arracher à la bouche d'un lion des morceaux si insignifiants, non ? Qui ne servent même pas pour faire une soupe. Pourquoi ? Parce que le berger n'est pas le patron du brebis. Et alors, il doit montrer au patron du brebis qu'il s'est battu contre la force majeure, qu'il n'a pas perdu par insouciance, par distraction, mais qu'il s'est battu contre la force majeure et sont les preuves, ces petites preuves sont le résultat de son effort de se battre et de résister à la... Et c'était exactement la définition de ma journée ouvrière. La journée ouvrière, c'était la bouche du lion. Alors, j'ai arraché des pattes, des morceaux à cette bouche du lion, avant qu'il m'arrache tout le reste du brebis.
Pour votre liberté, en fait.
Oui. Et ça, c'était...
C'est ça. Pour être libre, malgré l'harassement du travail.
Oui, ça,
vous étiez libre en vous levant plus tôt le matin, en étudiant la Bible.
Et donc, je prouve une gratitude physique pour ce langage, pour cette histoire, et pour l'effet qu'il a eu sur moi. Et donc, je me lève encore comme ça, et je fais cet exercice de réveil, qui s'est devenu un exercice de réveil.
Visage, Thierry Lyonnais.
Éric de Luca, vous avez écrit un jour « Tant que chaque jour, je peux rester ne fût-ce que sur une seule ligne de ces écritures, j'arrive à ne pas me défaire de la surprise d'être vivant. » J'aime bien cette phrase. tant que chaque jour je peux rester ne fût-ce que sur une seule ligne de ces écritures, donc la Bible, j'arrive à ne pas me défaire de la surprise d'être vivant. Pouvez-nous nous expliquer ça?
Oui, parce que ça regarde le réveil, ça regarde mes réveils. Et donc, il y a dans le réveil, dans le vide du réveil, il y a des lignes qui s'impriment pour la journée dans la tête et qui me tiennent en compagnie, se reproduisent et me font être conscient d'être vivant.
Ça, c'était pendant la période où vous étiez ouvrier. Mais à partir du moment où vous avez arrêté d'être ouvrier, vous avez continué ça quand même.
Oui, c'est resté l'habitude physique.
Et ça continue à vous émerveiller face à votre existence.
Oui, parce que continuellement, quand je lis, je trouve quelque chose que je n'avais pas lu avant, que je n'avais pas souligné avant. Et il y a une phrase du Talmud qui dit que quelqu'un qui lit l'Écriture sainte 100 fois n'est pas comparable à quelqu'un qui a lu l'Écriture sainte 101 fois.
Donc toujours lire plus.
Il y a toujours des choses en plus.
Ouais. Alors j'aimerais comprendre, Éric Luca, vous n'êtes pas croyant, vous n'appartenez pas à une religion, ni le judaïsme, ni le christianisme. Pourtant vous dites, je ne suis pas athée, je suis un homme qui ne croit pas.
Mm-hmm. C'est une petite différence entre non-croyant et athée. Non-croyant, c'est comme une personne comme moi qui n'a aucune relation avec la divinité, exclut toute relation avec la divinité.
Mais là, en lisant la Bible, en l'entendant dire « Et Dieu créa la lumière », vous n'êtes pas en relation avec la divinité.
Non, je suis en relation avec le format de sa version, de sa manifestation écrite. Mais je ne peux pas m'adresser à la divinité. Je ne peux pas tutoyer la divinité.
Vous ne priez pas.
Ni prier, ni insulter la divinité.
Pourtant, les psaumes, vous les avez lus et relus. Et
les psaumes sont ma lecture quand je voyage. Maintenant que je suis en voyage, j'amène avec moi les psaumes. Je lis les psaumes. Mais par contre, l'athée est quelqu'un qui a exclu la divinité de sa vie, mais aussi de la vie des autres. Donc, je ne peux pas exclure, comme non-croyant, la divinité de la vie des autres. Parce que je pense que quelqu'un qui a cette croyance, cette foi, est quelqu'un qui a une relation, une intimité et une connaissance que je n'ai pas. Donc, je ne peux pas je m'empêche de nier la croyance des autres. L'athée est quelqu'un qui nie la divinité aussi chez les autres. C'est une petite différence que j'ai trouvée pour moi. Je ne sais pas si ça peut être adaptable en vocabulaire.
Mais est-ce que c'est un manque chez vous, Éric de Luca?
Non.
De ne pas être croyant?
Non. Je n'ai pas le sentiment de quelque chose qui me manque.
Vous savez pourquoi je vous pose cette question? Parce que dans le tour de loi, dans ce dialogue entre votre fils imaginaire et vous-même, à un moment, donc c'est vraiment un dialogue, votre fils dit ceci. La foi sert à rester modeste envers sa propre vie. La foi sert à être reconnaissant pour le don d'exister. À l'entrée du temple d'Apollon à Delphes, il est écrit « Connais-toi toi-même. Connais-toi pour convenir de ta toute petite mesure devant le Dieu auquel tu rends visite. Considère qui tu es et après entre. Tu te sens le maître de toi-même, mais nous sommes des hôtes. Tu le lis dans les pages saintes que tu fréquentes. La terre et la vie sont prêtées. Nous sommes des locataires de la divinité et non pas des copropriétaires. » Ça, c'est ce que votre fils vous dit. Et vous lui répondez, « Cette image de l'entrée dans le temple est intéressante. Elle m'aide à dire que je reste dehors, sans savoir précisément de quoi. J'ai écrit un jour « Hors du campement ». J'en reconnais les limites, pour savoir que je restais à l'extérieur. » Vous avez bien le sentiment d'être à l'extérieur de quelque chose qui ne vous attire pas?
Non, de toutes choses, je suis à l'extérieur. Je suis à l'extérieur comme un étranger, comme un autre, partout. Même quand je rentre chez moi, j'ai le sentiment de... Il n'y a personne chez moi, non? Mais j'ai le sentiment de demander permis, s'il y a... Puis-je rentrer?
Vous êtes locataire, toujours locataire de tout.
Il y a ce sentiment de provisoire que je pense que dépend de ma origine napolitaine.
Ah bon, pourquoi?
Parce que les Napolitains ont toujours eu le cauchemar d'être pourchassés et d'être expulsés par le volcan, par les tremblements de terre, et après aussi par les émigrations et les guerres.
C'est intéressant ça, ce sentiment de fragilité, d'impermanence quelque part, parce que c'est vrai que le Vésuve est toujours là et il risque de vous tuer à tout moment. Les Napolitains, vous le savez, vous vivez avec ça.
Si, les Napolitains habitent avec cette présence qui pèse sur leur sommeil aussi. Un Napolitain sait toujours, dans une chambre fermée, où se trouve le Vésuve.
Et vous pensez que c'est ça? C'est-à-dire que vous êtes toujours à l'extérieur?
Je suis toujours avec une valise, un sac à dos pour m'éloigner.
Et dans votre relation à Dieu, comment vous exprimez ça?
Donc, je suis un lecteur de son format, du format de sa révélation.
Qu'est-ce que vous voulez dire par format? Je ne comprends pas bien.
Le format écrit, l'écriture, la version écrite.
Mais certains vont vous dire, ce n'est pas Dieu qui a écrit, ce sont les hommes qui ont écrit.
Oui, mais ce ne sont pas des hommes qui ont été des auteurs. Ils étaient des rédacteurs. Ça veut dire qu'ils... ramasser une grande tradition orale, fixer une grande tradition orale, que la tradition orale qui venait depuis beaucoup de siècles en avant.
Et ce n'étaient pas des écrivains comme vous?
Non, c'était des rédacteurs. Même les prophètes, même les livres des prophètes, sont des livres qui ont été écrits par intitulés à des prophètes, mais qui ont été écrits pour reprendre la conversation de la divinité. Pour fixer la conversation de la divinité. Jérémie, le prophète Jérémie, non? Au large du chapitre 40, donc, il se sent dire de la divinité, et maintenant tu écris dans un livre tout ce que je t'ai dit. Oh, comment pouvait-il le pauvre le faire? Écrire tout ce que... Il aurait dû être prévenu pour prendre des notes. Non, c'est pas comme ça. Parce que le dire de la divinité avait cette force de s'imprimer dans lui comme dans un puits. Il y a un vers de David qui dit que la divinité lui a creusé des oreilles. Dans les traductions, il n'y a pas ce verbe de creusement. Mais il dit creuser comme le verbe avec lequel on creuse le puits. Et ça, c'est lui. Lui de cette époque-là et de ses prophètes. C'était lui qui pouvait garder complètement les mots, la conversation, la révélation de la divinité. Et le pouvoir extraire de ce puits sans perdre même pas une goutte. Et pourquoi la seule chose se produit dans le Nouveau Testament? Jésus n'a aucun besoin d'écrire. Tout ce qu'il dit vient d'être gardé dans lui et dans l'écoute de ce qui était présent. Donc c'était comme une espèce de peuple de musiciens, non? Qui écoutent pour une fois, une seule fois, un concert et ils peuvent le réécrire ou le redire. Ou comme un jeu des joueurs d'échecs qui peuvent jouer et se rappeler de toute une série
de toute une partie. Mais vous êtes écrivain, vous n'êtes pas un conteur public, même si vous vous exprimez bien et que vous aimez parler, vous êtes écrivain. Il n'y a pas un parallèle parfois? Enfin, on parle de l'inspiration. Il n'y a pas des moments où quand vous écrivez, ce qui vous est donné d'écrire vient de plus loin que vous? Vous ne ressentez pas ça parfois?
Plus loin, c'est sûr, non, parce qu'il vient de l'extérieur. J'ai l'impression que quand il m'arrive une idée, que ce n'est pas moi que je l'ai produite, mais que j'ai la tête assez vide pour la recevoir.
Et elle vient d'où, cette
idée? Qui vient de l'extérieur, comme un vent qui ouvre une fenêtre à demi ouverte.
C'est intéressant, vous dites le vent, le souffle, c'est le mot qu'on utilise pour l'Esprit Saint.
Oui, si, si.
Le souffle, ou en hébreu, ruach.
Ruach, mais ruach en hébreu c'est bon.
C'est le vent.
Bon.
Oui, c'est l'esprit en même
et
temps.
Non. C'est le ruach qui sépare en deux les eaux de la mer Rouge.
D'accord, mais c'est quand même la présence de Dieu, non? C'est le souffle de Dieu.
Non, le souffle de Dieu, c'est le nefesh ou neshama. Ce sont des autres mots hébraïques pour ça.
Là, je vous fais confiance.
Ruach, c'est le vent. Mais normalement, on le traduit aussi de côté vent quand il est vent. Et côté esprit quand le traducteur a décidé que s'agit d'esprit. Mais quand Jésus, et avant lui, David, dit dans le psaume, « Dans ta main, je suis en train de consigner mon esprit, mais c'est mon vent.
Mon souffle de vie.
Pourquoi il s'exprime comme ça?
C'est Jésus parce sur la croix, hein, qui remet à son Père son esprit.
Oui, mais en citant le psaume 22 de David.
De David.
Mm-hmm. Il cite le psaume.
Seigneur, en tes mains, je remets mon esprit.
Beyatka afkidruhi. C'est-à-dire, dans ta main, je consigne, je suis en train de consigner mon vent. Pourquoi il dit vent? Parce qu'il sait que même le souffle n'est pas à lui. Le souffle est quelque chose qui vient de l'extérieur. Le nez, le premier nez, le bébé qui sort du ventre maternel, reçoit l'irruption de ce souffle qui vient ouvrir ses poumons et faire venir la respiration et le retour de la respiration. Donc c'est un vent qui vient de l'extérieur. Et ce vent de la naissance, ce vent qui vient de l'extérieur, qui est en train d'être restitué à celui qui l'a offert. De la naissance. Donc c'est pour ça qu'il est important de garder le mot « ruach »,« vent », et pas « esprit » ou « âme ».
Éric de Lucas, j'aimerais qu'on parle un instant de la montagne, parce qu'elle compte beaucoup dans vos livres, notamment dans le dernier, Impossible, mais aussi dans votre vie personnelle. Hein. Vous êtes un grand escaladeur.
Un escaladeur.
Oui, un escaladeur. Non. J'ai lu, je ne sais pas si c'est vrai, vous avez réussi, vous étiez le premier quinquagénaire à faire un 8B. Un 8B, hein, quelque chose de très, très dur, très raide.
Mais comme cinquantenaire.
Oui, comme cinquantenaire.
Parce que le 8B a été déjà fait.
Oui, d'accord, mais vous étiez le premier cinquantenaire à l'avoir fait. Donc vous êtes un très bon grimpeur, un très bon escaladeur. Qu'est-ce qu'elle vous apporte, cette montagne que vous aimez tant et qu'on retrouve dans vos livres? Allez, s'il fallait la quintessence de ce rapport que vous avez avec la montagne, qu'est-ce que vous aimez tant?
La montagne est belle pour moi parce que je peux partir, laisser l'endroit et donner progressivement le dos à tout. Et plus je m'approche à la paroi, et plus l'arrière augmente. Mm-hmm. Ce qui est au dos,
c'est vaste. Plus vous êtes collé à la paroi.
Et quand je me colle à la paroi, tout le monde est complètement dans le dos.
Donc vous tournez le dos au monde à ce moment-là?
Oui, je tourne le dos au monde, et quand je monte sur un sommet, je ne suis pas approché à quelque chose, je me suis éloigné le maximum du point de départ. Et ça, c'est dans la solitude et dans la beauté de l'endroit. Ouais. De l'endroit.
Ouais, parce que vous aimez marcher seul, grimper seul, être seul en montagne.
Oui, si, ça me plaît de m'offrir ce désert magnifique.
Ouais. Mais quand vous êtes au sommet, vous êtes comme tout le monde, vous regardez le paysage, et plus vous allez haut, plus le paysage est absolument vaste et grandiose. C'est le contraire de tourner le dos au monde. Là, vous êtes face au monde.
Là, je suis tout simplement dans l'endroit le plus loin possible. Je ne peux pas ajouter de l'autre distance. Et donc, quand je suis là, je reste très peu et je commence ma descente qui est souvent plus dangereuse que la montée. Parce que des accidents se produisent plus en descente qu'en dans la montée.
Vous pourriez vivre sans la montagne?
Je peux vivre sans tout.
Pouvez-vous passer de tout?
Oui, je pas de là. Jusqu'à ce que je pourrais, je ferai tout pour aller en montagne, mais sinon, si le corps décide, ou si la montagne décide que non, c'est comme ça.
Là, vous continuez. Vous avez 70 ans, vous continuez à faire de la montagne?
Oui, je continue à faire de la montagne. Cet été, j'ai grimpé plus que dans les autres étés. parce que quand on vieillit, il faut s'entraîner majeur, en plus.
Encore plus.
Encore plus. C'est, je peux dire que la vieillesse me force à me rajeunir.
Alors, qu'est-ce que c'est justement vieillir pour vous ?
Vieillir, c'est la décadence du corps, non ? C'est la décadence du corps, c'est la... C'est la constatation qu'on est au terme de du parcours.
Et pourtant, vous résistez ?
Et je vais arriver au terme du parcours de la meilleure forme possible.
C'est un refus de la mort ?
Non, c'est de la... C'est, je la recoule pas. Je l'accepte, mais j'essaie de ne pas me faire trouver coincé dans un lit d'hôpital avec une volonté acharnée de faire poursuivre un reste débilité.
Iri Luca, quelle est votre perspective de la mort ? Vous l'appréhendez comment, cette...
Je suis prêt. Je suis prêt, donc, c'est ma perspective.
Vous êtes prêt ?
Je suis prêt. Il y a eu des moments où la mort s'est approchée de moi, et j'ai eu, quand j'étais plus jeune... Et j'ai eu le sentiment de dire non, c'est trop tôt. J'ai encore quelque chose à faire. Non, maintenant,
je suis pourtant prêt. Vous êtes en pleine forme encore, vous aimez la montagne, vous écrivez, vous continuez à vivre pleinement, mais oui. Vous êtes prêt à dire oui à la mort.
Oui, si, bien sûr.
Même si pour vous, c'est la fin de tout.
Bienvenue.
C'est la fin de tout pour vous, il n'y a plus rien après, ou vous dites peut-être qu'il y a quelque chose, mais je n'en sais rien.
Je n'ai aucune imagination de pouvoir retrouver quelque chose après, de pouvoir embrasser
votre père, votre mère,
mes parents, non. Mm-hmm.
Non,
non, je n'ai pas cet espoir ni cette imagination.
Et la lecture de la Bible n'a pas développé cette imagination.
Non, mais m'a fait des bons effets, comme on disait auparavant.
Mais de bons effets ici et maintenant.
Ici.
Pas pour un avenir.
Jour par jour.
Éric Luca, pour terminer, avec toute l'expérience que vous avez eue dans votre vie, d'engagement politique, de vie napolitaine, de lecture de la Torah en hébreu, quel est, selon vous, le sens de cette existence humaine ? Pourquoi sommes-nous ici ?
Le sens est qu'on n'est pas seul. On appartient à une communauté humaine, de semblables, d'égales, et que la tâche est de se comporter le meilleur possible jour par jour.
C'est ça l'essentiel.
Pour moi, c'est.
Merci beaucoup, Éric de Luca. J'étais ravi de vous rencontrer. Je renvoie bien sûr les auditeurs à vos nombreux livres. Moi, je conseillerais vraiment, j'ai un coup de cœur pour Le Tour de Loi que vous avez publié et qui est disponible chez Folio en livre de poche. Et puis votre dernier aux éditions Gallimard, puisque c'est là où vous publiez pratiquement tous vos livres, Impossible, qui vient de sortir chez Gallimard et qui est disponible également en livre audio. Merci beaucoup, Éric de Luca.
Merci à vous.
Visage, une émission proposée par Thierry Lyonnais, assistante de production Laure Sylvestre et Laurence Bocard, réalisation technique Philippe Faure.